Vous écoutez On lit pour vous.
L'IA cause un branle-bas dans les cégeps. Un texte de Hugo Pilon-Larose, paru le 12 mai 2026 dans La Presse. Les cégeps vivent un branle-bas de combat depuis quelques semaines. Un nombre inhabituellement élevé d'élèves ont été soupçonnés, sans qu'on puisse le prouver dans la majorité des cas, par le ministère de l'Enseignement supérieur d'avoir plagié lors de l'épreuve uniforme de français en décembre dernier. Comment ? En ayant recours à l'intelligence artificielle, IA, pourtant interdite pour cet examen qui se déroule en classe et sans outils technologiques. Des cellulaires ont-ils été camouflés dans des vêtements amples pour que les surveillants ne les voient pas ? Des élèves portaient-ils les nouvelles lunettes qui intègrent l'IA de Meta, la société mère de Facebook ? Plusieurs hypothèses ont été soulevées. Ce qui est certain, c'est qu'au ministère de l'Enseignement supérieur, où sont corrigées les épreuves, on s'inquiète de l'augmentation importante des cas de plagiat aux épreuves uniformes de langue et littérature, notamment à l'aide de l'intelligence artificielle. Dans une lettre obtenue par La Presse, envoyée à l'ensemble du réseau collégial à la fin du mois d'avril 2026, le sous-ministre adjoint Marc-André Thivierge précise qu'en l'absence de preuves suffisantes pour prononcer un verdict de plagiat, la valeur du diplôme d'études collégiales pourrait être remise en cause. Extrait de la lettre envoyée par le ministère. La situation est préoccupante puisqu'elle compromet l'objectif premier de l'épreuve uniforme, qui est de vérifier que l'étudiante ou l'étudiant possède, au terme de ses études collégiales, les compétences suffisantes en lecture et en écriture. Or, dans la majorité des cas, les plagiats allégués se sont révélés être de faux positifs, explique la présidente directrice générale de la Fédération des Cégeps, Marie Monpetit. Ils étaient détectés par une méthode de correction qui utilisait en partie à son tour l'IA. Elle juge ces façons de déceler les cas de fraude comme n'étant pas fiables. Un examen obligatoire. Pour obtenir un diplôme d'études collégiales, DEC, les élèves québécois doivent réussir un examen uniforme de langues et littérature, soit l'épreuve uniforme de français dans le réseau francophone. En classe et sous la supervision étroite d'un surveillant, les élèves bénéficient d'un délai de 4h30 pour rédiger une dissertation critique de 900 mots, faite à partir de textes littéraires. Les copies sont ensuite envoyées au ministère de l'Enseignement supérieur, à Québec, où elles sont corrigées selon trois critères : la compréhension et la qualité de l'argumentation, la structure du texte et la maîtrise de la langue. La personne évaluatrice ne connaît pas l'identité ni le profil de l'élève qu'elle corrige. Selon une déclaration écrite envoyée à La Presse, le ministère de l'Enseignement supérieur, qui a refusé notre demande d'entrevue, explique qu'il a été constaté, au cours des dernières sessions, une augmentation d'éléments propres aux textes produits à l'aide de l'IA dans les examens remis par les élèves. Le ministère de l'Enseignement supérieur, dans une déclaration écrite, des analyses ont été ensuite réalisées afin de déterminer si ces éléments témoignaient d'une utilisation d'outils d'IA dans le contexte de l'épreuve uniforme. Bien que l'épreuve soit rédigée à la main, il semble que certains étudiants contournent les règles. De plus, lorsqu'il y a un doute raisonnable de plagiat utilisant l'IA, le ministère utilise à son tour des outils d'intelligence artificielle afin de produire des dissertations qui servent de comparatif avec les copies des étudiants pour y déceler des similitudes. Tous les cas de plagiat ont fait l'objet minimalement d'une analyse poussée par plusieurs intervenants tout au long du processus de correction, assure le ministère. Commotion dans les cégeps. Alarmé par une hausse inhabituelle des cas de plagiat communiqués par le ministère de l'Enseignement supérieur après l'évaluation de décembre, les directions des cégeps ont interpellé les fonctionnaires dans l'urgence ces dernières semaines. Sans une révision rapide, des élèves allaient être contraints de reprendre l'examen le jour de l'épreuve uniforme de français du printemps. Depuis l'envoi de cette communication par le sous-ministre, le ministère a reconnu son erreur dans l'évaluation initiale des épreuves et a demandé aux établissements d'enseignement d'intervenir directement auprès des étudiants concernés pour corriger localement leur erreur, explique Marie Monpetit, qui parle de la commotion et de l'anxiété que cette situation a causée. Des étudiants ont été accusés injustement d'avoir utilisé l'intelligence artificielle alors qu'ils sont dans des locaux où il n'y a pas d'Internet et où ils n'ont accès à aucun téléphone, dit Marie Monpetit. Dans ce contexte délicat, une source gouvernementale n'étant pas autorisée à discuter publiquement du dossier, a expliqué que le ministère avait mis en place un processus d'appel pour que les établissements d'enseignement révisent les cas de plagiat soupçonnés et les comparent à l'historique global de chaque élève, afin d'appuyer ou non l'accusation de fraude. Au collège Lionel Groulx, dans les Laurentides, le directeur général Philippe Nass explique que des 10 cas de plagiat allégués à son enseignement, un seul a finalement été retenu. Une révision des épreuves faites par le Cégep a permis de constater que des élèves ayant d'excellents dossiers académiques étaient accusés à tort. Ce qui a sonné l'alarme du côté du ministère, c'est qu'ils ont trouvé des occurrences de mots ou d'expressions qui pouvaient revenir dans différents travaux. Ce qu'on comprend, c'est qu'il y avait des expressions qui étaient peut-être d'un langage un peu plus soutenu et qui faisaient exception à ce qu'ils voyaient dans les autres travaux, explique M. Nasser. Moi, j'ai tendance à penser que si un étudiant a un langage plus soutenu qu'un autre, c'est probablement parce qu'il maîtrise mieux la langue et qu'il a la possibilité, dans sa dissertation, de le démontrer, ajoute-t-il. Climat de méfiance. Malgré ces nombreux faux positifs, le ministère de l'Enseignement supérieur considère toujours que les cas de plagiat sont à la hausse et qu'il faut des mesures de surveillance adaptées à la nouvelle réalité générée par l'IA. Face aux cégeps qui ont été surpris de voir des élèves soupçonnés de plagiat sans preuve tangible, le ministère répond qu'il collabore actuellement avec le réseau collégial afin de permettre aux établissements d'apporter des éléments qualitatifs complémentaires utiles à la compréhension des cas présumés de plagiat complexes comme ceux impliquant l'IA. Par ailleurs, un comité mixte regroupant des représentants du réseau et du ministère se réunira sous peu afin d'établir conjointement des balises, des mesures et des processus pour contrer le plagiat lié à l'IA aux épreuves uniformes de langue collégiale, nous a-t-on annoncé. Du côté de la Fédération nationale des enseignantes et enseignants du Québec, FNEEQ-CSN, le vice-président Yves de Repentigny déplore qu'on soit toujours 2, 3 ou même 4 coups en retard par rapport à l'intelligence artificielle. On parle d'évaluation qui se passe en classe. Imaginez maintenant avec les cours qui se donnent en formation à distance, soulève-t-il. De plus, ça crée un climat de méfiance où tu es quasiment coupable jusqu'à preuve du contraire, ajoute-t-il. La suspicion est tellement forte que dès qu'un étudiant sort du lot maintenant, on va le catégoriser comme une personne qui triche avant même d'avoir les preuves. C'était « L'IA cause un branle-bas dans les cégeps », un texte de Hugo Pilon-Larose, paru le 12 mai 2026 dans la presse.
Des pharmacies bannissent les boissons énergisantes. Un texte d'Isabelle Dubé paru le 7 mai 2026 dans la presse. Retirer carrément les boissons énergisantes des rayons des pharmacies, c'est la recommandation que l'Ordre des pharmaciens du Québec a faite à ses membres par écrit mardi le 5 mai 2026. Family Prix a répondu à l'appel. La décision de cesser de vendre toutes les boissons énergisantes de l'ensemble des pharmacies Family Prix a été prise le même mardi soir, explique à la presse son président Albert Falardeau. On prend cette décision pour l'intérêt du public. On a réagi rapidement à la demande de l'Ordre des pharmaciens et nos pharmaciens doivent être contents de notre réaction, soutient-il. Les produits ont été retirés des rayons le mercredi suivant. Le siège social a cessé de les distribuer dans les pharmacies, explique Albert Falardeau. Ensuite, il y aura des décisions à prendre face à ce qui reste dans le réseau, mais les boissons énergisantes ne seront pas remises en vente. L'Ordre des pharmaciens du Québec a rappelé à ses membres qu'environ 20% des adolescents prennent des psychostimulants et que leur interaction avec des boissons énergisantes caféinées présente des risques cardiovasculaires pouvant entraîner la mort. Vendre ces boissons dans des lieux adjacents à ceux où ces jeunes viennent chercher leurs médicaments représente donc une incohérence, soutient à la presse Jean-François Desgagnés, président de l'Ordre des pharmaciens du Québec. M. Desgagnés explique que l'Ordre étudie la question depuis déjà plusieurs mois, mais que la réflexion s'est accélérée avec le mouvement citoyen lancé par la famille du jeune Zachary Miron, appuyée par le milieu scolaire, des organisations sportives et une pétition de 35 000 signataires déposée à l'Assemblée nationale. L'interaction d'une canette de Red Bull avec le bifenthrin, un médicament qui régule le TDAH, a causé une arythmie entraînant la mort subite de Zachary Miron, âgé de 15 ans, en janvier 2024. L'interaction avec toute forme de caféine est aussi risquée. Jean-François Desgagnés précise « Comme président d'un ordre professionnel, je n'ai pas de pouvoir réglementaire sur les parties commerciales adjacentes aux pharmacies. Je dois m'adresser au sens civique de nos collègues en disant « Prenons cette position de santé publique. Est-ce que notre position va déranger? Peut-être. Mais on a travaillé en amont avec nos collègues, nos partenaires. On sait que les gens sont en réflexion. Il y en a qui ont déjà agi. Toute initiative sera bonne, mais ce qu'on privilégie, c'est le retrait, renchérit-il. Ce débat rappelle celui relatif à la vente de cigarettes en pharmacie, mentionne le président de Family Prix. Il se souvient avoir vendu des pompes à un client asthmatique qui achetait du même coup son paquet de cigarettes en toussant. L'interdiction de vente de cigarettes en pharmacie a finalement été confirmée par la Cour supérieure en 1998, après que le groupe Jean Coutu eut opposé une certaine résistance. Les propriétaires de pharmacies de l'époque craignaient une perte de profit. Il faut être cohérent avec notre profession, insiste le président de Family Prix. Toujours offerte chez Jean Coutu et Pharmaprix. Contactés par la presse au sujet de la vente de boissons énergisantes dans leur commerce, Jean Coutu et Pharmaprix ont affirmé ne pas avoir pour l'instant l'intention d'imiter Family Prix. Nous n'avons pas d'annonce à faire pour le moment, a précisé par courriel Catherine Latendresse, porte-parole de Jean Coutu et Brunet. Cependant, les pharmaciens propriétaires de Jean Coutu à Jonquière retireront ces produits de leur rayon. Nous nous engageons à travailler avec les pharmaciens propriétaires partenaires de notre réseau afin de mieux informer les patients et prévenir les risques d'interaction avec les médicaments prescrits grâce à une information claire, à de l'affichage en magasin et à des outils facilitant les échanges sur la consommation de ces produits, a déclaré par courriel Geneviève Poirier, porte-parole de Lobla, propriétaire de la chaîne Pharmaprix. Je n'en vends pas, précise d'emblée au téléphone Benoît Morin, président de l'Association québécoise des pharmaciens propriétaires, AQPP. Je pense qu'il faut que les membres soient cohérents avec la nouvelle pratique et avec l'évolution de la pratique du pharmacien, soutient-il. Dans les dernières années, on est là-dedans. Avoir une cohérence dans ce qu'on vend et ce qu'on propose à la population, ajoute-il. C'est une clientèle jeune qui, souvent, va s'être automédicamentée avant de voir le médecin, entre autres avec des boissons énergisantes, avec de la caféine. C'est une population vulnérable. Il faut envoyer des messages clairs. Pas de pouvoir juridique, dit l'ABCPQ. L'Association des bannières et des chaînes de pharmacie du Québec, ABCPQ, souhaite plutôt que le gouvernement encadre la vente des boissons énergisantes dans les pharmacies et les commerces de détail. L'association ne peut pas recommander de retirer les produits des rayons, soutient son directeur général, à cause de raisons juridiques. Une association d'entreprises comme la nôtre n'a pas la possibilité, en vertu de la loi sur la concurrence, de discuter ou de prendre des ententes par rapport à la disponibilité des produits, à leurs modalités de mise en marché, prix, etc., explique le directeur général Hugues Mousseau. Quand on regarde les données sur les ventes des boissons énergisantes, 95% se font ailleurs que dans les pharmacies, ajoute-t-il. Si l'ordre est préoccupé par des questions de santé publique, comme c'est son mandat de protection du public, on trouve que c'est un peu dommage de s'intéresser seulement à la vente de ces produits en pharmacie. De son côté, Karl Goyette, président et chef de la direction de Gourou, dit avoir signé la pétition pour interdire la vente aux jeunes de moins de 16 ans. Gourou recommande déjà sur ses canettes de restreindre la consommation aux 18 ans et plus. Ça fait longtemps que je le dis. Gourou, on est en support d'un encadrement autour des boissons énergisantes, explique-t-il au téléphone. Mais je me dis que les pharmaciens devraient faire partie de la solution. C'était « Des pharmacies bannissent les boissons énergisantes », un texte d'Isabelle Dubé, paru le 7 mai 2026 dans La Presse.
D'épée et d'affection. Un texte de Rose Aimée, Automne Témorin, paru le 24 mai 2026 dans La Presse. C'est une histoire banale. C'est aussi un petit miracle. Le genre d'affaires qui nous passe sous le nez, mais qui participe au tissu de notre communauté. Plus égoïstement, c'est une première occasion pour moi de tenir une épée. Le club escrime Lagardère célèbre ses 75 ans. Sa particularité, il est entièrement géré et animé par des bénévoles, dont Claude Davio, entraîneur principal et doyen de l'organisation. L'homme de 73 ans est en train de réparer de l'équipement dans une salle exiguë au sous-sol du Centre de loisirs Saint-Denis à Montréal, quand j'y entre avec Héloïse Edom, la présidente du club. Les deux me jaugent quelques secondes avant de repérer du premier coup la veste, le masque et le gant qui m'iront parfaitement. J'enfile les vêtements blancs et force est d'admettre que ça a de la gueule. C'est d'ailleurs parce qu'elle trouvait les athlètes classe qu'Héloïse a commencé à s'intéresser à l'escrime à l'âge de 8 ans. Claude, lui, s'y est initié bien plus tard. Il avait 32 ans et un imaginaire marqué par des histoires de chevaliers. Ils ont respectivement rejoint le club Escrime Lagardère à titre d'élève en 2014 et en 1986, avant de devenir des piliers de l'organisation qui accueille des tireurs dès l'âge de 8 ans. Tireur, c'est le nom qui désigne les athlètes, qu'ils tiennent un fleuret, une épée ou un sabre, m'apprend Héloïse Edom. C'est que je ne connais rien du tout à l'escrime. Je suis allée à l'école publique. La directrice prendra donc quelques minutes pour m'initier à la discipline, question que je comprenne un minimum ce dont je parle. Je la suis vers le gymnase où pratiquent déjà des membres du club. Elle me prévient. L'escrime, ce n'est absolument pas intuitif, dit Madame Edom. On marche en crabe, on est emmitouflé dans plein de couches et on porte un masque. C'est très bizarre au début. J'ai hâte. Héloïse m'aide à choisir une épée, m'apprend à la tenir et me dicte les règles de sécurité. Parlant de sécurité, j'ai oublié de mettre mon armure à seins. Ce n'est probablement pas le nom technique de cette pièce d'équipement. Ma poitrine n'a pas cette forme-là du tout que j'observe à voix haute. La mienne non plus. Ça a sûrement été conçu par un homme, répond Héloïse avec un sourire en coin. Quand j'enfile mon masque, un petit vertige m'envahit. La directrice du club me rassure. Ça peut brièvement donner la nausée, mais on s'habitue. OK, mais pour l'instant, c'est comme si j'étais chaud d'ail et qu'on me tendait une épée. Ma mentor ne semble pas trop s'inquiéter. Elle m'explique comment prendre la position, en garde, avancer, reculer, me défendre et contre-attaquer. Je pousse de petits cris dès que son épée m'approche et je ne peux m'empêcher de dire « poup » quand la mienne touche son corps. Parce qu'elle me laisse l'atteindre, on s'entend. Je n'aurai aucune chance dans un véritable duel. Autour de nous, tireurs et tireuses s'affrontent. L'ambiance est joyeuse et les combats m'impressionnent. Héloïse souligne que le jeune homme qui aide l'un des entraîneurs à l'autre bout du gymnase n'a que 17 ans. Il enseigne aux enfants depuis ses 14 ans et commence maintenant à épauler les adultes. C'est important de former la relève, affirme Madame Edom. C'est comme ça qu'un club arrive à atteindre 75 ans. Il faut motiver les gens et transmettre cette passion-là. 15 minutes plus tard, j'enlève mon masque en sueur. C'est plus exigeant que je ne l'imaginais. Je n'en reviens pas que Claude pratique toujours ce sport du haut de ses 73 ans. La vertu de l'escrime, comparée à d'autres disciplines de combat, c'est que tu ne te fais pas mal, me dit-il. Tu travailles trois qualités. Concentration, précision et vitesse. En face de toi, il y a une intelligence qui veut t'embrocher. Donc, c'est un sport où tu dois développer ta force mentale. Et il n'y a pas de fin à développer ça, ta force mentale. Il n'y a pas de fin au bénévolat non plus, on dirait. Ça fait près de 35 ans que Claude Daviau est gracieusement l'entraîneur principal du club Lagardère. Comme il n'y a personne qui punche, dit-il, on est là parce qu'on a le goût d'être là. Ce qu'on perd en salaire, on le gagne en camaraderie. Pour moi, le bénévolat, c'est notre contribution à la vie sociale du quartier, poursuit Claude Daviau. Pourquoi je suis encore là? Parce que je suis content de voir les enfants le vendredi. J'ai encore le goût d'être avec eux et de les voir progresser. Les autres bénévoles, ce sont mes chums. Toute cette affection-là, ça n'a pas de prix. C'est ce que je vous disais. C'est une affaire banale, mais c'est aussi un petit miracle. C'est l'histoire d'un club de bénévoles qui, au nom de l'escrime, font communauté depuis trois quarts de siècle. C'était « D'épée et d'affection », un texte de Rose-Aimée Autonne-Témorin, paru le 24 mai 2026 dans la presse.
La Cour suprême rend une décision majeure sur le contrôle coercitif et la violence conjugale. Un texte de Stéphanie Marin, publié dans Le Devoir du 16 mai 2026. En sous-titre, par sa décision, le plus haut tribunal du pays a créé un nouveau délit de violence entre partenaires intimes. La Cour suprême a rendu vendredi une décision majeure sur le contrôle coercitif en créant un nouveau délit dans le Canada, hors Québec. Le plus haut tribunal du pays dénonce aussi, à cette occasion, la violence conjugale, qu'elle qualifie de, citation, « mal de société pernicieux qui mérite toute l'attention de la loi ». Fin de citation. Autre citation, « la violence entre partenaires intimes demeure à des niveaux épidémiques ». Fin de citation, déplore la juge Andromache Karakassanis dans le jugement de 400 paragraphes dont les motifs de la majorité ont été rédigés par le juge Nicolas Cassirer. Par sa décision, le plus haut tribunal du pays a créé un nouveau « délit » entre guillemets en common law, soit le « délit de violence entre partenaires intimes ». Fin des guillemets. La common law est le système juridique qui régit le droit privé à l'extérieur du Québec. Cette décision de la Cour suprême n'aura pas la force d'un précédent au Québec, qui possède un système juridique différent, souligne la professeure de droit de l'UQAM, Rachel Chagnon. Le jugement aura néanmoins une utilité notable au Québec, vu les nombreux constats qu'il établit sur la violence conjugale, la définition « guillemets très large » fin des guillemets qu'il donne au contrôle coercitif et ses conclusions sur l'étendue des dommages qu'il cause à un partenaire intime, poursuit-elle. La Cour suprême inclut dans sa définition les tactiques d'isolement, de manipulation, d'humiliation, de dénigrement, de surveillance, de maltraitance économique, de violence judiciaire, la perte d'autonomie et la menace de se suicider ou d'enlever les enfants. Un avocat pourra ainsi inviter un tribunal québécois à s'en inspirer et à reprendre les mêmes principes, explique la professeure, qui est aussi doyenne de la Faculté de sciences politiques et de droit de l'UQAM. Le fait que ce nouveau délit ne s'applique pas au Québec ne signifie pas que les victimes ne peuvent réclamer des dommages pour le contrôle coercitif. Le recours a simplement une autre base juridique, l'article 1457 du Code civil du Québec. Il est aussi important de noter qu'il n'est pas ici question de droit criminel, mais bien de droit civil et de la possibilité de poursuivre l'auteur d'une faute ayant causé des dommages. Un jugement qui frappe. Le jugement de la Cour suprême a aussi du poids, vu sa condamnation sévère de la violence conjugale. Citation. « Elle frappe fort », estime Mme Chagnon. « Quand la Cour suprême s'exprime, ça compte. » Fin de citation. Et puis, créer un nouveau délit, ça n'arrive pas tous les jours. Citation, ce n'est pas anodin, fait remarquer la professeure. La décision rendue dans cette affaire concerne le cas d'une femme qui a subi des années de violences physiques et psychologiques de la part de son mari. Citation, par sa conduite, l'époux avait contraint et contrôlé l'épouse afin de briser sa volonté et de la conditionner à lui obéir dès le début de leur mariage, est-il rapporté dans la décision. Elle lui a réclamé des dommages pécuniaires pour les mauvais traitements qu'elle a subis. En common law, afin de poursuivre au civil une personne, il faut rattacher sa demande à un délit ou cause d'action existant. Ici, la Cour suprême a jugé que les délits civils déjà existants, comme l'agression ou l'infliction intentionnelle d'un trouble émotionnel, présentent des lacunes car ils n'englobent pas tous les comportements nocifs ni tous les dommages subis par une victime de contrôle coercitif, comme la perte d'autonomie et l'atteinte à la dignité. La Cour suprême a aussi retenu la mise en garde formulée par l'Association nationale Femmes et droits, qui est intervenue lors des audiences. L'association a recommandé de ne pas formuler trop largement le nouveau délit pour qu'il ne puisse être, guillemets, utilisé comme une arme, fin des guillemets, contre les survivantes, même de violences qu'ils cherchent à protéger. La Cour suprême reconnaît ainsi que les auteurs de mauvais traitements utilisent souvent les poursuites judiciaires comme outil leur permettant de continuer à dominer après une séparation et de détourner l'attention de leur propre rôle en tant qu'agresseurs. Cette mise en garde a été également formulée par des groupes de protection des droits des femmes au Parlement qui étudient la possibilité de faire du contrôle coercitif une infraction criminelle distincte avec le projet de loi C-16. Fin de ce texte de Stéphanie Marin titré « La Cour suprême rend une décision majeure sur le contrôle coercitif et la violence conjugale » publié dans Le Devoir du 16 mai 2026.